Vous écoutez le podcast Edencast.fr. Animation et montage, Kevin.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Edencast. Nous allons parler de JAWS pour Windows. Et pour cause, puisque la version 13 est sortie récemment, ça doit faire une ou deux semaines, et je me disais que ce serait sympa de revenir sur ces nouveautés. Et pour justement en parler, je suis avec Olivier Crespi. Salut Olivier.
Salut Kevin.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ?
Et je peux tout à fait. Je travaille chez Cessia et c'est moi qui m'occupe du gros projet que Cessia mène qui touche à la francisation de JAWS.
Et ça, voilà.
Depuis quelques années maintenant, on a commencé il y a quelques temps avec la version 7.
Donc on peut t'appeler Monsieur JAWS.
On m'appelle Monsieur JAWS. D'ailleurs, j'ai certains collègues à Cessia qui s'en privent pas et qui me charrient sur ça. Je fais par ailleurs toujours un peu de formation puisque avant que Cessia n'ait le privilège de s'occuper de JAWS. J'ai été engagé comme formateur et je forme toujours un peu. Je m'occupe aussi surtout de la formation
pour
sur
kinés.
JAWS avec un logiciel de gestion de cabinet médical pour kinés.
Edencast.fr, un zeste de technologie pour un maximum d'autonomie.
Dans ce podcast, on va parler de JAWS 13, mais... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de traduction?
Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, avec JAWS, on touche à la traduction, puisque on reçoit du matériel, hein, des fichiers qui nous arrivent, qui sont les fichiers qui correspondent à la version américaine de JAWS. Mais il n'y a pas que de la traduction. Il y a aussi de l'adaptation, parce que il y a des fois des différences où il y a des choses qui se passent pas exactement de la même façon dans les versions françaises des logiciels pour lesquels on adapte JAWS et dans la version américaine. Donc il faut adapter. Donc je travaille aussi avec un de mes collègues qui est basé à Lyon, qui s'occupe plus lui de la compilation des programmes et du travail sur les scripts.
Il vous donne aussi une partie du code ou alors c'est basé uniquement sur des fichiers de traduction?
On recompile tout.
Ah ouais. Ah, donc vous avez le code source en partie alors?
En partie, ouais. Bon, il y a plusieurs niveaux. Il y a
niveau
hard où on n'a pas besoin d'avoir les sources et où probablement l'éditeur qui est Freedom Scientific, comme chacun sait, ne souhaite pas que.
Ils ont la main surtout.
Ils ont la main. Et après, on a un certain nombre de choses à faire, donc de choses à traduire, et ensuite on doit recompiler pour obtenir des exécutables qui font appel à des librairies de messages.
Ouais, des librairies, ouais.
C'est. Et il y a aussi tout le travail sur les scripts où il faut traduire tous les messages et ensuite recompiler les scripts pour pouvoir avoir la version française.
Avant, c'était VisuEd qui s'occupait de la traduction.
Tout au début, c'était VisuEd qui s'occupait tout à fait de ce travail-là. Ensuite, ça a été un court instant Freedom d'Europe qui avait repris les choses et les gens n'étaient pas très contents du travail qui avait été fait. Et ensuite, ça a été ceci.
Ils sont venus vous voir, ils vous ont dit « Ouais, vous voulez traduire ?»
Il y a eu de ça. Freedom s'est dit que dans d'autres pays, ils avaient fait passer des accords avec des boîtes locales qui connaissaient le produit et qui connaissaient ce que c'était que la déficience visuelle, le braille et tout ça. Et que, effectivement, faire traduire par quelqu'un qui est peut-être un professionnel de la traduction mais qui ne connaît pas le domaine, ça aboutit à traduire, je ne sais pas moi, grade 2 par... Braille grade 2, ce qui en français n'est pas
ce
qu'on utilise pour se référer à l'abrégé. Voilà.
Donc, ouais.
Il y avait ce genre de problème. Ensuite, donc, une fois qu'on a tout ça, on fait un petit tour, c'est-à-dire que nous, on fait des comparaisons de fichiers pour voir qu'est-ce qui a bougé par rapport à la version précédente qu'on a travaillé. Et on prend les fichiers un par un, on les passe dans un espèce de logiciel spécialisé qui est un logiciel d'aide à la traduction. Qui nous permet de dérouler le fichier.
C'est une espèce de moulinette.
C'est ça. C'est une espèce de moulinette qui analyse le fichier en termes d'unités de traduction, qui sont souvent des phrases. Si l'unité de traduction est identique à une unité de traduction qu'on a déjà traduite précédemment, ça se passe tout seul. Le logiciel remplace le bout de texte en
clair. Il vous mâche un peu le boulot, quoi.
Il mâche pas un peu le boulot. Il est capable simplement de reprendre ce qui a été fait la dernière fois. Si le bout de phrase n'a pas été traduit et que c'est une phrase qui a été revue par Freedom ou c'est une fonctionnalité qui n'existait pas, donc c'est quelque chose de nouveau, le logiciel s'arrête et là, c'est à moi de jouer. Et donc, on obtient tous les messages de l'interface de Jaws comme ça, et on obtient aussi tous les messages des scripts comme ça. Une fois qu'on a tout ça, on compile et on se fait une première version, nous, en interne, dans laquelle il peut rester des bouts d'anglais ou des choses comme ça. L'idée, c'est de voir comment ça se passe au niveau des logiciels qui sont les plus couramment utilisés, essentiellement Windows et Office, parce que dans certaines versions de aux États-Unis, on a des combinaisons de touches qui sont les mêmes tout partout dans Office.
Par exemple, c'est plus pratique.
B pour mettre en gras, donc Jaws le gère comme ça. Il a un seul script qui va fonctionner partout. Et nous, dans le Office français, on n'a pas de bol. Dans certaines applis, c'est CTRL-G. Et dans d'autres, par exemple dans Outlook, ils ont laissé CTRL-B. Pourquoi ? Probablement que c'est Microsoft qui a vu les choses différemment.
Ah, c'est Microsoft.
Il n'a pas très bien fait son boulot ou il a apporté de jugement. Mais du coup, il faut que notre ami scripteur, là, qui travaille avec moi, reprenne les choses et bidouille un peu pour que quand on appuie sur CTRL-B et qu'on est dans un Outlook, ça se comporte comme si on avait
comme
fait
CTRL-G. Comme si c'était CTRL-G, ouais. Voilà, en fait, la version française, elle n'est pas uniquement traduite, elle est un peu custom, quoi. Finalement.
C'est obligé. C'est tout à fait ça. Et c'est ce travail-là d'adaptation qui est le plus difficile.
C'est ce qui explique les numéros de build qui sont un peu différents des versions américaines, des fois.
Alors, jusqu'à la version 11, on s'alignait exactement sur les mêmes numéros, comme vous avez probablement remarqué. Effectivement, à partir de la version 12, on n'a pas les mêmes numéros que la version américaine, ce qui complique un peu les choses, que nous, on doit essayer d'informer aussi nos utilisateurs, savoir, il y a des gens qui sont très informés, qui suivent aussi l'actualité de Jaws aux États-Unis et qui nous demandent est-ce que les dernières mises à jour, les derniers hotfix, comme ils disent, sont inclus dans la version que vous sortez ou
oui,
pas.
Oui.
Alors, pour répondre à la question, c'est pas exactement ça. C'est Freedom qui nous donne des builds, en fait. Sur ces builds, nous, on fait notre travail de localisation, comme on dit dans le jargon. Mais c'est pas nous qui gérons le numéro de version.
Ouais, donc c'est Freedom Scientific
qui a souhaité avoir des numéros de version pour la version internationale, puisque ça va être la même version internationale en français et dans d'autres pays. C'est pas nous qui gérons.
Donc quand on se retrouve par exemple avec une version de Jaws US 924 comme celle que j'ai en ce moment,
ouais,
et qu'on a une version française 13.661, ou enfin je sais plus.
C'est bien, c'est ça.
Ouais. Et donc en fait, ça veut pas dire forcément que la version elle est plus vieille.
Non. C'est pas ça que ça veut dire. En fait, la version 661, elle correspond à la version qui était sortie aux États-Unis en janvier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour faire tout ce travail d'adaptation, ça demande un certain temps, ça demande de faire des tests, et pour amorcer la machine, c'est un peu long. Ce qui fait qu'on est sorti là en juillet. Après, la version qui est sortie en janvier aux États-Unis et la version qui sont sorties là dernièrement en mai, il y a des modifications bien sûr, mais il y a un certain nombre de fichiers qu'on ne retouche pas, qui n'ont pas été modifiés. Freedom modifie quasiment tous ces fichiers d'une version à une autre, une version majeure à une autre. Donc entre une 12 et une 13, il faut repasser beaucoup de fichiers.
Il y a plus de 85% de modifications.
Tout à fait. Certains fichiers vont avoir très peu de modifications, mais il faut les repasser quand même. Par contre, là, on va essayer de... Le plan, c'est de sortir la version 977 qui correspond à la 924 US. Rapidement, là, si possible, dans l'été, début juillet. Alors,
Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'avant, on se souvient que les versions de Jaws, c'était vachement plus lent, quoi. C'était tous les ans.
C'était tous les ans et une seule version.
Ouais, voilà. Et là, vous avez décidé d'accélérer. C'est quoi? C'est du... Est-ce que c'est Freedom Scientific ou c'est Cessia qui s'est rendu compte que finalement c'est plus facile ou...
Bah, on travaille ensemble déjà avec Freedom Scientifique. Et donc, avant, dans un certain nombre de pays, il y avait une version que Freedom décrivait comme étant la version internationale, c'est-à-dire la version finalisée qui n'allait pas bouger
pendant
sur
toute
laquelle
l'année.
On travaillait. Voilà. Donc, on attendait d'avoir une espèce de version finale aux États-Unis. On les laissait débugger pour nous aussi, on peut dire, d'un autre côté. Mais ça impliquait pour les gens d'attendre la version finale et donc il se passait beaucoup de temps entre la sortie américaine et la sortie en France, ce qui générait beaucoup d'incompréhension chez les utilisateurs de Joose qui étaient dans leur logique et nous on était dans notre logique et c'est vrai que les deux logiques avaient du mal à se rencontrer. C'était une difficulté effectivement. Donc là l'idée c'est que avec Freedom on s'est dit si on essayait de sortir peut-être pas toutes les versions qui sortent aux États-Unis parce que ça demande un travail assez phénoménal,
ouais,
mais essayer de mettre à dispo une version 13 plus tôt dans le temps, même si c'est pas la version finale, sachant que on va avoir une version intermédiaire, donc on a décidé de sortir celle de mai, et puis il y aura de toute manière la version finale parce que je pense que Joose 13 va encore évoluer. Une version finale qu'on aura, comme d'habitude, octobre-novembre.
Donc en gros, il y a celle qui est en ce moment, on en aura une en été, et il y en aura une autre avant la fin de l'année, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est déjà mieux qu'avant.
Après, si Joose bouge plus et qu'il reste sur la version de mai 2012 aux États-Unis, bah, on n'aura pas de version finale. Mais a priori, les années précédentes nous montrent qu'il y avait encore des modifs à l'automne. Éventuellement. On va essayer, nous, de donner à nos utilisateurs les infos exactes telles qu'elles sont parues sur le site de Freedom, le site US, des infos exactes sur qu'est-ce qui a été modifié entre la version 661
et la 977.
Voilà, et la version 977 qu'on va sortir après.
Donc, à parler de Joose 13. On va revenir sur quelques nouveautés marquantes, en tout cas celles qui sont les plus visibles par l'utilisateur, hein Olivier ?
Tout à fait, il y a deux grosses nouveautés et puis des choses plus qui focalisent moins l'actualité, on va dire. Pour commencer avec les nouveautés,
l'OCR.
On ne peut pas ne pas parler de OCR facile.
Ouais.
L'idée c'est que quand vous insérez un DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur et que certains DVD gèrent l'accès au DVD par un menu sous forme d'image, avec Joose, on était coincé. Et donc l'idée, c'est que si on inclut une reconnaissance optique de caractère, en anglais OCR, tout le monde connaît ça maintenant, dans Joose, on va pouvoir, en quelque sorte, scanner ces images qui sont à l'écran. Joose va nous permettre de naviguer dans le texte de ces images, s'il y a du texte. Et si on clique sur ce texte, Joose va reproduire le clic sur la partie de l'image qui contient ce texte.
Comme si c'était une personne voyante. Ouais.
Voilà, qui cliquait dans l'image sur visionner le DVD ou accéder au bonus.
Ça, c'est une des plus grandes innovations de Freedom depuis plusieurs années, quand même.
C'est un truc intéressant, ouais.
Ouais.
Et il faut tout de suite dire, parce qu'on m'a déjà posé mille fois la question sur le stand à Autonomique, ça ne remplace pas OmniPage ou OpenBook ou n'importe quel logiciel.
Non, c'est pas une reconnaissance de caractère pour lire des courriers ou des trucs comme ça. C'est juste une aide à l'utilisation de l'interface de logiciel.
La réponse de Freedom est aussi que ça n'est pas la solution, malheureusement, pour accéder au CAPTCHA, parce que souvent la résolution de l'image n'est pas suffisant.
Pourtant, il y a des scripts comme WebVisum qui envoient comme ça. Comment ils font ? Pourquoi ils n'arrivent pas à reproduire le même style de service ?
Ça, c'est une bonne question.
C'est
effectivement une question que je me pose
ouais.
Et que je ne manquerai pas de reposer dès que j'aurai un contact.
Parce que c'est vachement rapide, hein, en plus, hein, ils te répondent WebVisum, c'est en genre 30 secondes. Quoi.
Et c'est très pratique, en plus.
Ça marche aussi avec les PDF, ce truc, c'est pas qu'avec les DVD.
Ça marche aussi avec les PDF, tout à fait. L'idée, c'est que si on tombe sur un PDF image, on peut tout à fait tenter une reconnaissance avec l'OCR intégré de Joose qui s'appelle donc OCR Facile. Pour rentrer plus un peu dans le vif du sujet concret, avec Joose depuis plusieurs années, je crois que c'est avec la version 11 que Freedom a mis en place ce qu'on appelle les commandes de couche ou les commandes séquentielles. où on va avoir à lancer une combinaison de touches pour rentrer dans un espèce de mode de
Comme le insert espace.
multicouche. Voilà, c'est le insert espace, tout à fait. Et ensuite, lancer une autre commande qui va nous emmener dans la fonction qu'on souhaite. Donc, insert espace, c'est la commande qui lance l'ouverture des commandes séquentielles. On fait insert espace et on relâche le tout. On est dans
Et
un
on peut
espèce
couper
de
la
mode Jaws.
parole, on peut...
Voilà. Jaws attend une nouvelle séquence de touches. À partir de là, on peut effectivement couper la parole, lancer l'analyseur de texte, etc. Et si on tape O comme OCR, on rentre dans la couche ou la séquence OCR. Dans cette séquence OCR, on a plusieurs touches possibles. On a W qui lance une
Qui lance
reconnaissance
la
de la
reconnaissance.
fenêtre, S qui lance la reconnaissance de l'écran, et C qui lance la séquence que de la commande si on est sur un bouton graphique, par exemple. Et puis on a H qui lance l'aide, où on va retrouver une petite description de W, S et C.
Ensuite, c'est une voix, je crois que c'est pas la même voix qui répond quand il lit la transcription.
Tout à fait. Je vois que tu as déjà bien creusé la question.
Ah bah ça fait des mois que j'ai Jaws 13.
Tout à fait. Quand on lance l'OCR, le processus peut prendre un peu de temps. Donc il nous dit OCR lancé, et quand c'est fini, il nous dit terminé. Et le curseur actif à ce moment-là est le curseur Jaws. Le curseur Jaws, c'est le curseur, quand on utilise Jaws, qui permet de naviguer dans l'écran comme on le ferait avec sa souris. Et quand on tombe sur du texte qui est reconnu, on a une voix un peu différente, ce qui permet d'identifier le texte qui est présent à l'écran d'origine et le texte qui a été reconnu par l'OCR intégré à Jaws.
Alors ça, c'est avec ça, c'est avec éloquence, mais quand on utilise des voix sapies comme celle d'Acapella ou celle de Nuance, ça se passe comment?
Alors là, on n'a malheureusement pas forcément cette
Ouais, voilà.
différence.
C'est ce que je voulais te faire dire.
C'est ça, c'est ça.
Quels sont les inconvénients de ce genre de... Il doit en avoir, forcément.
Sur certains PDF, j'ai eu des résultats, c'était pas du 100%, mais le texte était lisible. Et je me suis dit, tiens, effectivement, c'est pas mal. Et sur d'autres, ça a été carrément décevant.
Ouais, mais moi, même sur des DVD, des fois aussi. Ça m'est déjà arrivé.
Je suis moins DVD, moi, donc j'ai testé une fois ou deux, mais je suis pas un grand DVD-vore. Mais
Ouais.
pour moi, l'inconvénient, c'est ça. C'est effectivement que sans que moi j'arrive à déterminer qu'est-ce qui est différent d'un PDF à l'autre ou éventuellement d'un DVD à l'autre, certaines fois ça marche bien et d'autres fois c'est moins probant. Il y a une autre nouveauté dont je voudrais parler. Et avant de parler de mon autre nouveauté, je vais juste évoquer un point qui figure dans les nouveautés de Jaws 13 dans la version française et qui figure pas dans la version américaine et pour cause, parce que c'est un point qu'on a décidé de rajouter nous sur la façon de nommer un certain nombre d'options.
Dans le insert F3.
Dans le insert F3 par exemple, mais aussi dans le insert V sur lequel on va revenir après. On a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont fait des retours sur le fait que Jaws était bavard. Et c'est vrai que c'est moi qui m'occupe des messages, donc ça me concerne directement. Quelle est la logique à suivre? Doit-on traduire ce qui est dans les messages en anglais? Doit-on traduire et adapter? Ou bien doit-on
Interpréter, ouais.
vraiment plus interpréter ce qui est dans le Jaws anglais, quitte à être
Pas
plus
fidèle,
loin,
ouais.
voilà, plus loin des messages en anglais, mais être peut-être plus convivial en version française et être plus, en tout cas, répondre plus aux attentes des gens en termes de messages plus courts et de plus suivre cette optique-là. Donc là, sur la 13, on a vraiment décidé de mettre un coup de propre, on va dire, dans les messages. Donc le insert F3, c'est une chose,
Et
mais
ils sont
c'est
plus
pas,
courts du coup.
voilà, ils sont plus courts du coup, tout à fait. Et on peut plus facilement naviguer avec l'initiale. Et puis dans la boîte de dialogue inservée qui s'appelait Verbosité de Jaws en version 6, 7, 8, qui s'appelait Option de Jaws depuis la version 9, on a eu l'occasion de retravailler tout ça parce que cette boîte de dialogue a changé.
Justement, il faut qu'on en parle de cette, de
voilà,
cette version.
Ça s'appelle maintenant paramètre rapide et c'était la deuxième nouveauté dont je voulais vous parler.
Ouais.
Et que on perd pas le fil.
Non.
Donc cette boîte de dialogue inservée, elle regroupe déjà deux boîtes de dialogue qui existaient par le passé. Il y avait inservée qui existait, il y avait contrôle inservée qui existait spécifiquement pour les options braille.
Ça, il y avait insert, majuscule V. Oh là là,
et il y en avait une troisième qui était disponible que dans certains cas, mais qui était plus ou moins une redite de inservée, qui était effectivement insert HV, je vois qu'il y en a qui suivent.
Ouais, ouais.
Qui étaient les options propres à un site internet en particulier. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, il y a un servé, point. Alors pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Leur idée, après on peut partager ou ne pas partager, mais l'idée, ils disent qu'ils s'appuient sur des retours des
clients américains
aux États-Unis, qu'ils s'appuient sur les retours de leurs fournisseurs dans les autres régions du monde, etc. C'était trop. C'était trop en formation et puis pour quelqu'un qui installe Joe tout ça de se...
Et puis même enfin je veux dire
quoi insert V insert MHV contrôle insert B tout ça,
ça commence à devenir une usine à gaz quand même
un peu. Et puis il y a un certain nombre de paramètres qui étaient ajustables à la volée et dont le réglage se perdait quand on changeait d'application ou quand on quittait Joe, quand on rebootait le système, etc. Il y en a d'autres en revanche qui était maintenu. Et on savait plus trop, à moins d'être un très bon connaisseur de Jaws, tel paramètre, il va rester ou il...
Ah ouais, là, il faut la maîtrise, faut maîtrise de Jaws complète, là.
Et c'était carrément ridicule. Maintenant, on peut dire que pour accéder à la configuration de Jaws de base, soit la configuration par défaut, soit la configuration application par application, on a le centre des paramètres qui est apparu dans Jaws 12. Et pour accéder à des paramètres à la volée, on a un servé. Et dans un servé, ils ont mis en place un menu contextuel. Donc avant de modifier vos options de verbosité...
Avec la touche application.
Voilà. Vous pouvez appuyer sur la touche application et décider si vous voulez que vos réglages soient pris en compte de manière définitive ou s'ils soient rejetés quand vous allez quitter l'application ou quand vous allez quitter Jaws. Donc, ça a clarifié les choses. Et puis, dans cette boîte de dialogue, du coup, comme on a ce menu contextuel, eh bien, il était plus nécessaire d'avoir une boîte de dialogue spécifiquement pour les sites Internet, puisque il suffit d'utiliser le menu contextuel et de dire « je veux que mes paramètres soient maintenus quand je reviens » pour que, sur un certain site Internet, si on ne veut pas voir les animations flash, cette option soit maintenue.
Ah ouais, notamment ça, d'ailleurs. Ou le rafraîchissement de la page automatique.
Ça, c'est les deux options phares que j'utilise moi tout le temps.
Bah moi aussi, parce que là...
Et les options braille, et bah, franchement, il y a peu de gens qui utilisaient CTRL insert B parce que les options braille, dès qu'on branchait un afficheur braille, elles étaient incluses dans insert V. Et donc, ce raccourci est passé à la trappe aussi. Sachant qu'il y a de plus en plus... Enfin, le but, c'est que au fur et à mesure des versions de Jaws, on ajoute des fonctionnalités, ajoute des paramétrages et qu'à un moment donné il y a bien aussi la nécessité de faire de la place et de libérer des commandes parce que sinon on va se retrouver avec des commandes à 3 ou 4 touches, ce qui pour un utilisateur comme toi et moi va pas poser trop de problèmes, encore que ça va quoi, ils peuvent pas faire plus simple. Et les gens qui ont des difficultés des handicaps moteurs associés ou autres, c'est nettement moins drôle.
Mais en parlant du braille d'ailleurs, enfin vite fait, il s'est passé quoi avec l'abrégé ? Parce que je crois qu'il y avait eu un truc avec l'abrégé ou je sais pas quoi, ça a mis du temps.
Alors il s'est passé avec l'abrégé que dans Jaws 12 aux États-Unis, ils ont offert une fonctionnalité de saisie sur la plage braille en braille informatique à 8 points ou en abrégé. Que nous en version française avec Jaws 12, on s'est focalisé sur l'affichage en abrégé parce que c'était
c'est prioritaire.
Voilà, c'était prioritaire. Et l'affichage en abrégé existait depuis Jaws 6. Mais moi, j'avoue que quand j'ai repris le projet de Jaws, je ne l'ai pas crié sur les toits parce que c'était franchement pas terrible. On a essayé de travailler sur le truc, mais c'était compliqué de faire évoluer ça. Les DLL ne permettaient pas de gérer la totalité des contractions qu'on aurait voulu pouvoir gérer en abrégé français, etc. Là, dans Jaws 12 et 13, je vous invite à tester, parce que je pense vraiment que, évidemment, faire un truc en abrégé qui soit exempt de problèmes, ça n'existe pas. Mais on a vraiment gagné en sérieux dans ce module d'affichage en abrégé. Après, il reste le module de saisie en abrégé, dont j'exclus pas de modifier un jour ou l'autre, parce que je suis moi-même non-voyant. Pour l'instant, je dois vous dire la vérité, c'est pas fait. Je sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper à l'automne, et je sais même pas si les DLL que nous fournissent les Américains permettront de le faire. Honnêtement, je ne sais pas.
Et donc, pour l'instant, on doit taper en intégrale si on tape sur le clavier Perkins.
En braille à 8 points.
Ouais. Et donc, pour revenir aux nouveautés de Jaws 13, on avait aussi la recherche qui, par exemple, était plus personnalisable en fonction des pages web maintenant. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte par hasard.
C'est ça. On a une recherche personnalisable. On peut cocher une case à cocher dans la fenêtre de recherche Jaws qui permet de faire en sorte que la recherche Jaws soit sensible au contexte. Si vous consultez les nouveautés de Jaws, chers auditeurs, vous verrez que cette nouveauté-là est effectivement documentée. Et je trouve ça bien, personnellement. Après, on a dans les nouveautés le fait que pour lire les tableaux, c'est intéressant ça, à mon sens, ils ont mis maintenant une commande séquentielle. C'est-à-dire qu'on fait insert espace et T et on est rendu dans la couche tableau. Et donc, par exemple, dans cette couche tableau, pour avancer d'une cellule ou revenir en arrière d'une cellule, aller à droite, à gauche, etc., il suffit d'utiliser les flèches. Alors que précédemment, pour naviguer dans les tableaux, il fallait tenir CTRL-ALT et naviguer avec haut, bas, gauche, droite. C'était plus compliqué.
Ouais, c'était un enfer.
Les claviers de portable et tout ça, ça faisait beaucoup de touches à manipuler en même temps. Et donc là, en plus, dans cette couche tableau, on a un certain nombre de touches qui permettent d'aller au début du tableau, à la fin du tableau, au début de la ligne, à la fin de la ligne, etc. Donc je vous invite, si vous devez manipuler des tableaux, à tester, parce que ça me paraît plus facile à utiliser.
Il y a le fameux curseur Jaws dans une page web.
Oui, si vous avez... essayez le dernier navigateur de chez Microsoft, le Internet Explorer 9, qui n'est disponible que pour les gens qui ont Windows 7. 10, là, s'il en reste quelques-uns, et surtout 7.
Ouais.
C'était pas possible avec Jaws 12 d'utiliser le curseur Jaws. Et donc, ils ont retravaillé tout ça. On peut maintenant naviguer aussi avec le curseur Jaws sur Internet Explorer 9. Alors, c'est vrai que la plupart des gens vont peut-être pas avoir besoin de ça, mais pour les...
Attends, et des fois...
bien avec Jaws...
Oui, des fois, moi, j'avais besoin de cliquer sur des... Ouais, mais même, des
sur
fois...
Sur certains boutons, ouais. Départ d'outils ou autre.
Ouais, ou même dans des... Ou même dans certaines pages web, pour qui la touche retour ne fait rien sur un lien, tu vois. Tac, il faut que tu cliques avec un curseur...
Voilà, se dire qu'on va tenter avec le curseur Jaws et qu'en simulant le clic souris, on va peut-être pouvoir obtenir un résultat. C'est tout à fait ça. Il y a une autre nouveauté dont je voudrais parler 3 secondes, c'est le visionneur de résultats. Parce que si vous avez utilisé la fonctionnalité Research Sheet de Jaws...
Elle n'a pas un nom français, celle-là ?
Elle n'a pas un nom français, celle-là. On peut maintenant, dans les résultats, avoir carrément des liens dans la fenêtre qui s'affiche. La fenêtre de résultats est maintenue si on veut naviguer avec Alt-Tab, aller dans une autre application et revenir à la fenêtre de résultats si on a cherché un mot avec Research Sheet.
On reste toujours dedans.
Ouais. La fenêtre va rester à l'écran, alors que avant, avec ce qu'on appelle l'afficheur virtuel, voilà, c'était pas le cas. Dès qu'on faisait Alt Tab, l'afficheur virtuel se refermait, donc c'était pas très pratique. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet de nouvelles possibilités qui n'existaient pas.
Au moins il reste quoi.
Voilà, il reste. Et puis les gens qui développent des scripts peuvent intégrer le visionneur de résultats dans leur script et prévoir qu'on puisse naviguer dans la fenêtre du visionneur avec tab et mashtab pour aller sur des liens éventuellement.
Ouais, donc, ça ouvre certaines perspectives, ça.
Une dernière petite nouveauté pour la route.
Vas-y, balance.
Quand vous faites un CRF10 pour aller dans la liste des fenêtres, beaucoup de gens utilisent Alt+Tab à la place. Mais on a
Ah,
une.
avec les fenêtres de premier niveau.
Voilà, tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Si vous avez votre antivirus ou un pare-feu qui met une fenêtre de premier niveau, vous allez être bloqué parce que vous ne pouvez plus travailler dans votre application. Et pourtant, très souvent, ces fenêtres de premier niveau ne sont pas accessibles. Parce que pour pouvoir y accéder, il faut déjà cliquer dedans pour y amener le curseur.
Ouais, et
Et donc, c'est
puis
avec un
avec Joe, c'est
CRF10.
pas très accessible des fois quand tu veux cliquer.
Carrément. Carrément. Et donc, avec un CRF10, vous allez trouver maintenant dans la liste des fenêtres cette fenêtre de premier niveau. Et quand vous allez faire entrer ou quand vous allez cliquer sur le bouton basculer vers de la boîte de dialogue, ça va vous emmener dans cette fenêtre de premier niveau. Donc, c'est une des raisons qui va vous amener à utiliser un CRF10 de temps en temps si vous êtes bloqué par une
Cela
fenêtre de
dit, le
premier niveau
F10,
qui aboutit.
il est loin quand même, hein, par rapport à un cerf sur un papier. Ça fait loin
Ça,
quand
c'est
même.
vrai. Mais la fonctionnalité à un CRF10, elle existe depuis des lustres. Et
Ah
donc
ouais, je
là,
sais bien,
je ne
mais...
pense pas qu'ils vont accepter de la modifier. Cela dit, un CRF1, ça existe. Un CRF2, ça existe. Un CRF3, ça existe. Un CRF4, ça
Ouais,
existe.
mais là, tu utilises ta main gauche, alors que j'ai un CRF10, tu vois. Enfin, bref.
Oui, tout à fait.
Moi, j'utilise qu'une seule main pour faire les deux, mais c'est vrai que c'est loin, hein. Des fois, tu te dis, peut-être les filles, ils ont des petites mains.
C'est ça. Il faut avoir des grandes mains, quoi.
Ouais.
Edencast.fr, un zeste de technologie pour un maximum d'autonomie.
Ce podcast touche à sa fin. Mais avant de te laisser repartir bosser, Olivier, je te propose de sortir de l'univers de Jaws et de parler un peu de l'univers Apple. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es le repossesseur d'un iPhone 4S depuis peu, et donc j'aimerais savoir ce que tu en penses globalement, quelles sont tes impressions, ton ressenti, maintenant que tu utilises un appareil tactile.
Je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire, n'ayons pas peur du mot. Ça change complètement la façon qu'on avait d'utiliser un téléphone. C'est-à-dire que dans le monde du Nokia, il y avait quelques applis qui étaient dispo pour les utilisateurs de téléphone, il me semble, les voyants, mais c'était quasiment pas exploitable avec Toks. Enfin, c'était compliqué, etc.
Ouais, sans
Si
parler
dans
des applications qui n'étaient pas signées et tout.
Voilà, tout à fait. Dans l'App Store, il y a des montagnes d'applications.
On a sur le site de Edencast, on a Logitech VoiceOver, où t'as plein d'applications qui sont référencées par les déficients visuels, et donc où on est sûr quoi que ça fonctionne avec VoiceOver déjà, qui t'évite de les payer des fois pour rien.
Tout à fait. C'est d'ailleurs très intéressant. Et donc voilà, l'idée, c'est que des fois, on n'a pas envie d'allumer son PC pour faire une petite recherche de base. Et là, déjà rien qu'avec le paquet d'applications qu'on a, on peut, les trucs de base, style avoir la météo, etc. En 3 secondes, on a l'information qu'on cherche. Pour moi,
Ouais,
c'est inégalé. C'est
même pour
inégalé.
Wikipédia, hein. Et par rapport à ça, justement, quand tu vois qu'il y a de plus en plus, enfin, maintenant, Apple, c'était un pionnier en la matière au niveau d'intégration de l'accessibilité au sein de produits grand public. Et il y a Google qui est en train d'essayer, là, de rattraper Apple, mais pour l'instant, c'est pas top. Et Microsoft, plus récemment, qui s'est lancé avec son narrateur, nouvelle version pour Windows 8. Et à mon avis, ça préfigure sûrement qu'il y aura une version du narrateur sur Windows Phone, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Est-ce que tu penses que les solutions tierces, quoi, tu sais, de type Jaws, de type Toks et tout ça, est-ce qu'ils arriveront à survivre à long terme devant ce genre de lecteur d'écran comme VoiceOver, par exemple?
Aujourd'hui, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un Jaws 14 qui va arriver.
Ouais, pour Windows 8.
Voilà. Et je pense sincèrement que même si s'il y a un narrateur dans Windows 8 qui a fait des progrès significatifs, on est encore loin de ce que fait Jaws. Après, effectivement, il faut voir comment ça tourne, mais il faut quand même bien avoir en mémoire que les gens qui utilisent Jaws dans le monde professionnel et qui utilisent très souvent des applications métiers pour qui travaille dans les assurances, qui travaille, enfin il y a
standard.
Plein de domaines, même voilà où il y a des déficients visuels, il va falloir s'accrocher pour permettre d'avoir un outil qui soit aussi performant, sur lequel on puisse développer des scripts pour accéder à des applications qui nativement ne sont pas forcément accessibles, etc.
Ce que tu veux dire en gros, c'est que si ces lecteurs d'écran disparaissent pour le grand public, elle peut très bien subsister pour le monde professionnel.
En tout cas, ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que le monde professionnel a besoin de plus que le monde du grand public, je pense.
Et est-ce que tu as testé alors Mac ?
J'ai pas testé Mac pour l'instant. Je suis à fond sur mon iPhone là.
donc je ne pourrais pas avoir ton avis sur VoiceOver sur Mac. Hein.
Tout à fait.
C'est dommage ça. Eh bien Olivier, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou...
Non, rien de particulier, sinon que je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Et donc je remercie franchement toute l'équipe du site EdenCast m'avoir permis d'avoir la parole.
Bah écoute, le plaisir est partagé. On parle beaucoup d'Apple, mais ça ne nous empêche pas de regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Hein.
C'est gentil à vous.
Merci à toi.
Merci, bonne continuation et à bientôt sûrement.
À bientôt.
Ce podcast vous a été présenté par edencast.fr. Pour aller plus loin, vous pouvez réagir en commentaire sur notre site.